La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui aujourd'hui vous propose une rencontre avec Pierre Dumayet. Pas direct, hélas, puisque Pierre Dumayet est mort en 2011, mais ça a été quand même un très grand défricheur journalistique en ce qui concerne la littérature. Il a été à l'origine des premières émissions sur les livres à la RTF, juste après la guerre, et ensuite pendant longtemps à la télévision. Eh bien, les archives de Pierre Dumayet viennent d'être données à la Bibliothèque nationale de France, ce qui nous donne l'occasion de revenir sur le portrait de celui qui a été aussi novateur par rapport à la littérature de son temps et à la littérature qu'il précédait. Pierre Dumayet, donc, lecteur infatigable. Lecteur pourquoi ? Eh bien, il s'en expliquait en disant un petit peu ce que c'était pour lui que la lecture et qu'être un lecteur.
Il me semble que tous les livres n'ont de sens que par rapport à l'extrême curiosité que l'on a de quelque chose. Or, vous n'allez pas me dire que vous lisez avec passion un livre pour savoir si Huguette épousera Marc ou si Alfred épousera Henriette. Je ne sais pas qui sont ces gens dont je parle, mais peu importe. Mais vous avez envie de savoir autre chose. Vous avez envie de savoir ce qui va vous arriver quand vous serez morte, un peu avant, un peu après, etc.
Vous pensez que le livre prépare...
Je ne dis pas qu'il prépare, je dis simplement que tous les livres qu'on lit, on les lit pour être renseigné sur des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire sur sa naissance, dont on ne sait rien, et sur sa mort, dont on sait vraiment très peu de choses. Bon. Et cette curiosité-là, à mon avis, c'est elle qui fait vivre les libraires. Enfin, je veux dire, c'est elle qui fait écrire les gens.
L'extrait d'une émission de Tchéla Minard qui, sur RFI, avait invité Pierre Dumayet en 1991. Pierre Dumayet qui se présente justement comme un curieux et comme quelqu'un qui lit des livres parce qu'il est curieux. Alors, nous sommes à notre tour curieux de Pierre Dumayet. Merci beaucoup à Laurence Lebras, qui est l'une des responsables des collections manuscrits modernes et contemporains à la Bibliothèque nationale. Et merci à Antoine Dumayet, le fils de Pierre Dumayet, de venir nous parler donc de ce personnage, puisqu'il y a eu un don d'archives à la BNF. Laurence Lebras, est-ce que d'abord vous pourriez nous parler de ce que c'est que ce don ? Qu'est-ce que vous avez reçu ? Quel type d'archives ? De quoi la BNF vient-elle de s'enrichir ?
Donc, les archives de Pierre Dumayet sont entrées dans les collections de la Bibliothèque nationale de France au département des manuscrits l'année dernière, en 2017. Ces archives se composent de carnets, de notes de travail, de manuscrits de ses propres œuvres, puisqu'il faut le dire, Pierre Dumayet a lui-même écrit des livres, de documentation pour la réalisation des émissions, donc je le disais tout à l'heure, depuis la note de travail jusqu'au synopsis, quand il a rédigé des synopsis pour adapter des livres pour la télévision, de la correspondance, et puis des documents annexes comme les photographies, des enregistrements sonores, audio, qui viennent compléter cet ensemble d'archives papier. Et ces archives nous permettent vraiment d'entrer dans le laboratoire de Pierre Dumayet. On aura l'occasion certainement d'y revenir tout à l'heure sur sa façon de travailler. Mais elles montrent, et c'est l'impression que l'on a pu avoir, ma collègue Anaïs Dupuis-Olivier et moi-même qui nous occupons de ce fonds, l'impression première, c'est que pour Pierre Dumayet, parler de la littérature... Écrire, lire, forme un tout. Il ne distingue pas ces trois activités au quotidien. Et une des preuves, par exemple, que l'on peut trouver dans ses archives, c'est dans ses carnets de notes sur une même page. On va trouver un brouillon de manuscrit d'un de ses textes personnels, une réflexion sur la télévision et un retour sur une lecture qu'il vient de faire. Tout ça se mêle dans l'ensemble des carnets et prouve bien à quel point ces trois activités, lire, parler de la littérature et écrire, ne font qu'un seul, qu'un tout, un seul ensemble chez lui. C'est important de le dire puisque on a même ce sentiment lorsqu'on peut regarder ces manuscrits les plus anciens, qu'en fait Pierre Dumayet est un écrivain avant d'être quelqu'un qui parle de la littérature. Il a la démarche de l'écrivain, de la personne qui réfléchit, qui cherche un sens dans l'existence.
Il commence d'abord par écrire.
C'est ça, il commence d'abord par écrire. Et ce qu'il va aller chercher ensuite chez les auteurs, c'est finalement ce qu'il a commencé par chercher dans sa propre écriture.
Oui, Antoine Dumayet, vous disiez qu'il commence d'abord par écrire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette facette de la physionomie intellectuelle de votre père qu'il présente comme s'il n'y avait pas de solution de continuité, il n'y a pas de rupture. Écrire, c'est déjà lire, c'est déjà écrire, et présenter les lectures qu'on a aimées, c'est encore une autre facette d'une même activité.
C'est-à-dire qu'il a tout fait un peu en même temps. Il a commencé à écrire dans les revues littéraires après la guerre, Poésie 46-47,
Mais très tôt alors, puisqu'il est né en 23, donc il commence à écrire vers 22-23 ans, juste après la guerre.
Ouais. Il écrit beaucoup dans ces revues-là sur Michaud,
oui.
Et il écrit des choses déjà cocasses, déjà drôlatiques. Il est, comment dire, vous savez, les gens qu'il rencontre à la radio, il rentre à la radio en 47. C'est pas des ennuyeux, hein, que
alors,
nos
Tardieu, oui.
André Frédéric, Billet-Doux, Dubillard, c'est une bande de joyeux drilles.
Et ce sont des joyeux drilles qui inventent une nouvelle façon de communiquer. Parce que ils font des émissions de radio alors que la radio est encore assez jeune, et ils vont faire des émissions de télévision alors que la télévision, elle est toute nouvellement née, en France en tout cas. Après la guerre.
Oh ben après la guerre, elle n'est même pas tout à fait là.
Oui. Bon, donc ça, il va faire partie des faits qui vont se pencher sur le berceau de la télévision. Bon, ça s'invente, quoi.
Oui, ça démarre.
Oui.
Ça démarre. Mais il a quand même fait 4 ans de radio.
Et déjà à la radio, il a proposé une émission sur la littérature.
Il a fait une émission de radio littéraire. Oui.
Donc en 47, c'est la RTF.
Oui.
Et très vite, il s'est mis à écrire pour la radio, je ne sais pas, pour la télévision en tout cas, puisque le premier feuilleton réalisé par Claude Barma, l'agence Nostradamus, il avait contribué à son écriture.
Oui, c'est 53.
Un extrait de La Suite des Choses, Vincent Touchard, dans La Danse des Mots, qui revient à la personnalité de Pierre Dumayet, puisqu'il y a une donation qui vient d'être faite, en tout cas récemment, à la BNF, à la Bibliothèque Nationale de France, de ses archives. Alors, Laurence Lebras, toutes ces archives, elles peuvent être consultées par qui ?
Ces archives sont consultables comme l'ensemble des fonds que nous conservons par les chercheurs dans la salle de lecture du département des manuscrits. Qu'est-ce qu'on entend par chercheurs ? Évidemment, les universitaires, les étudiants à partir de la licence et pour tous les travaux de maîtrise, de thèse, mais aussi toute personne qui a un projet de recherche personnelle suffisamment motivé pour demander l'accès aux archives. Donc, elles sont consultables exclusivement dans la salle de lecture. Souvent, on nous pose la question de la numérisation des manuscrits. Et il faut bien savoir, bien prendre conscience que les manuscrits qui sont sous droit, donc protégés par le droit patrimonial, ne peuvent pas être numérisés sans l'accord des ayants droit. Donc, c'est le cas pour la quasi-totalité. Je dis la quasi-totalité parce qu'il y a quelques exceptions, justement, de manuscrits dont la numérisation a été autorisée par les ayants droit. Mais la quasi-totalité de nos fonds d'archives contemporains ne sont consultables que dans notre salle de lecture. Si je peux me permettre, justement, quand vous me demandiez tout à l'heure ce qu'apportent ces archives, ce qu'on y trouve, et bien justement, par rapport à ce que Pierre Dumayet a essayé de faire à la télévision en créant ces émissions littéraires, à travers ces archives, on voit bien que c'est une réflexion permanente chez lui. Dès le début, il se demande ce qu'il va pouvoir faire avec ce média, la télévision, pour faire passer la littérature. Et comment utiliser ce média à des fins éducatives et culturelles. Sur cette question éducative et culturelle, il y revient d'ailleurs en 1988, le 15 septembre 1988, il envoie une lettre au ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang, pour justifier, après une discussion orale qu'il semble avoir eue, auquel il fait référence, pour justifier ses positions quant à la création d'une chaîne éducative et culturelle, alors même qu'en parallèle, il y a des discussions depuis 1985 sur la création d'une chaîne européenne, suite à des propositions émises par le Collège de France. Et Pierre Dumayet dit, mais en fait, c'est pas incompatible. On peut avoir une chaîne européenne d'une part, et puis une chaîne éducative et culturelle d'autre part. Et donc, vous voyez bien que, fin des années 40, début des années 50, il est déjà en train de réfléchir à cette question de comment faire passer la culture à la télévision. Et à la fin des années 1981, il est toujours sur cette question. C'est vraiment une préoccupation qui a été la sienne durant toutes ces années d'activité.
Mais où on retrouve vraiment une ambition qui est celle de l'après-guerre, qui est celle de la culture pour tous. On peut en vouloir pour preuve, par exemple, le titre d'une de ses émissions les plus connues à la télévision, Lecture pour tous. C'est aussi l'époque du TNP. C'est concomitant. Oui. Hein. On veut une culture qui soit à la fois très haut placée et très populaire.
Oui, alors en même temps, quand on regarde rétrospectivement ces émissions, à l'aune du populaire actuel, on est quand même sur des émissions de haut vol,
c'est du haut niveau. C'est exactement
et
ce que je veux dire.
Le fait qu'il ait réussi, voilà, il y a une ambition véritable à cette époque-là. Les auteurs qu'il a reçus, c'est le gratin de la littérature, et pas seulement la littérature aussi,
Antoine Dumayet. Il serait... aujourd'hui, si on les ferait venir à la télévision, hein, des gens comme Bataille...
Mais oui, Barthes, Georges Bataille, c'est pas du tout une littérature facile à lire. C'est Bataille qui l'invite dans son émission pour parler de son rapport à la littérature. De même, il invite Céline, en quelle année ? En 57 ?
En 57, pour
voilà,
Château
c'est
l'autre.
Incroyablement sulfureux et d'une certaine façon téméraire d'inviter Céline à peine plus de 10 ans après la fin de la guerre.
12 ans après la fin de la guerre, tous ces gens c'est pas simple de leur donner la parole, hein, mm-hmm. parce que Bataille est un auteur, comment dire...
disons sulfureux.
Oui, sulfureux.
Oui, nietzschéen.
Extrêmement exigeant.
Nietzschéen, pelu.
Est difficile, et en plus un auteur philosophique qui montre bien qu'on peut faire de la philosophie avec de la fiction et qu'on peut parler de philosophie à travers les romans. Bah, Georges Bataille avec quelques autres, Klossowski sont parmi ceux qui ont le plus montré à cette époque qu'on faisait de la philosophie avec du roman. Alors, il l'invite aussi.
Et qu'on faisait du roman avec la philosophie.
Et qu'on faisait du roman avec de la philosophie, ça c'est vrai.
Et il les invite l'année de la publication des ouvrages, la plupart du temps. Oui. Il n'attend pas, il les invite tout de suite. Et en plus, il invite des personnes qu'il n'est pas forcément facile d'interviewer.
Céline n'est pas commode d'interviewer.
Voilà. C'est très intéressant. Alors, je cite régulièrement, enfin quand il m'arrive d'en parler, la fameuse interview de Michel Bernstein par Pierre Dumayet. Michel Bernstein, donc, qui a écrit Tous les chevaux du roi, et donc ça c'était en 1960. Tous les chevaux du roi est un petit roman, un roman très intéressant, petit par sa taille. Michel Bernstein, c'était la première épouse de Guy Debord, le fondateur de l'Internationale situationniste. Et il l'invite sur son plateau, et là, il a vraiment du mal à l'interviewer, parce que sa façon de faire habituelle, les questions qu'il pose d'ordinaire, en fait, ça ne prend pas. Voilà, ça ne prend pas avec Michel Bernstein, qui s'amuse beaucoup. Les deux jouent au chat et à la souris.
Et tout ça se faisait donc à la télévision en direct.
Voilà, ça se fait à la télévision en direct. Alors, c'est une des interviews les plus amusantes de Pierre Dumayet à regarder, parce que on voit bien là, amusante, et en même temps, on voit bien là toute la difficulté d'être un intervieweur et de s'en sortir justement de ces situations où l'auteur, eh bien, ne va pas du tout dans le sens qu'on voudrait.
Et en même temps,
Il y a beaucoup de gens pas faciles à interviewer. Modiano qui bégaye à moitié, pardon. Oui, c'est pas toujours simple.
Hein. Oui, et en même temps, on voit bien l'attention que Pierre Dumayet porte à ce qu'est la scène intellectuelle de son temps. Parce que, par exemple, il invite Roland Barthes en 57 au moment de la parution des Mythologies. Alors maintenant, évidemment, les Mythologies, on en a beaucoup entendu parler de ce qu'a été cette espèce de suite incroyable de petites études sémiotiques sur ce que sont les signes des années 50. Qu'est-ce qui est moderne à la fin des années 50? Dumayet, tout de suite, comprend que là, il y a une bascule intellectuelle qui se fait et que c'est là qu'on va penser de façon un petit peu différente. Et il invite Roland Barthes sur son plateau, alors que Roland Barthes est très peu connu à l'époque.
Il démarre tout juste.
Alors, on disait il y a quelques instants que Pierre Dumayet était lui-même écrivain. Je vous propose de l'écouter lire un extrait d'un texte qu'il a écrit, Nonchalance. C'était d'ailleurs au micro de Tchela Minar sur RFI.
Première image. Une cage d'escalier éclairée par le ciel. Le long de la rampe, une main coule. C'est Maurice. Il vient de se réveiller. Sa femme, Odile, dort encore. Sa fille, Bernadette, est déjà loin. La maison est d'une nature douce. C'est Maurice qui la contrarie. Il en veut au monde entier. La pauvreté n'y est pour rien. Odile prétend qu'il lui faudrait une compagnie à commander. La vie civile ne lui convient pas. Il n'a jamais été soldat. Si Maurice se rase, il se l'est ordonné. Ses nuits sont malaisées. Il résiste à ses ordres. Dormir, rêver. Plus le temps passe, plus il est lucide. Quand il se réveille, il est surpris. Il n'a pas assisté à son endormissement. Le sommeil l'a prise en traître, l'a quittée à son insu, c'est la pagaille. En ce moment, il se couche les pieds au nord. Odile s'en moque, mais le lit est à la place du dessous de plat, au centre de la chambre. À vue d'œil, Odile a 25 ans de moins que Maurice. À en croire Maurice, la raison de son insomnie serait le poids considérable des draps et de la couette. Ce poids, le soir l'écrase. Le matin, la literie paraît légère, incompréhensible. Autrefois, il se racontait des histoires. Un borgne, le remplaçant du médecin, lui a dit que la fiction tenait en éveil. Par prudence, il ne se raconte plus rien. Une idée passe, il la chasse. Une image, il l'efface. Pourtant, une fois couché, il est bien. Il se sent jeune. On pourrait le croire capable de courir après un autobus, alors qu'il n'éprouve plus aucun désir pour les autobus, alors qu'il se relève mal s'il s'est baissé, alors qu'il doit demander au plancher de l'aider s'il doit porter quelque chose. Mais debout, à condition d'être assis ou couché, il se sent encore jeune, c'est un fait, surtout s'il est immobile. Un jour, il s'est retenu à une feuille d'arbre. La solidarité, c'est agréable.
Un extrait donc de l'un des derniers textes écrits par Pierre Dumayet, Nonchalance, où on voit bien d'ailleurs son humour, avoir du désir pour les autobus, c'est quand même quelque chose de magnifique. J'aimerais bien savoir justement comment il interviewait. Je crois, Antoine Dumayet, que vous avez retrouvé un très court texte de votre père qui parle de cet art de l'interview, de cet art de ne pas en dire trop et de savoir poser les questions.
Mais d'abord, dans ce texte, il parle d'Odile. Et je voudrais juste vous citer une phrase concernant Odile, parce que je l'aime beaucoup. Le lit d'Odile ne laisse pas Gustave tranquille. Deux corps qu'on laisse infuser, quelle tisane!
Alors, quelle tisane, ça me permet de vous demander de nous lire cet autre texte, justement, sur cette façon de poser des questions.
Alors, oui, c'est un monsieur qui savait écouter. Donc là, il y a un petit texte de quelques lignes sur les vertus du silence. Généralement, le silence en audiovisuel n'est pas bien vu. Il est synonyme de panne, de grève, de désordre. Dans le jeu de l'interview, le silence n'est pas souvent invité. J'aimais bien m'en servir pourtant car il a des vertus. Quand la personne interviewée se tait, c'est qu'elle estime avoir répondu. Elle attend donc que le questionneur reprenne la parole. Et si le questionneur ne reprend pas la parole, eh bien, au bout d'un certain temps, la personne interviewée se sent, à tort, responsable du silence. C'est alors qu'il lui arrive de dire ce qu'elle avait omis spontanément et qui est souvent plus intéressant, plus personnel que ce qui venait d'être dit. De la part de l'intervieweur, ce silence n'est pas à bec et ongles, c'est un silence attentif qui signifie « Je ne voudrais pas vous empêcher de nous apprendre ce que vous allez dire si je me tais encore un peu. »
Devine dans la danse des mots. Revenons donc à Pierre Dumayet, lecteur infatigable. Est-ce qu'on voit dans ces archives qui ont été léguées donc à la BNF, à la bibliothèque, quels étaient ses auteurs de prédilection, les auteurs vers lesquels il revenait beaucoup? Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence Lebras?
C'est une question intéressante parce qu'autant il interviewait énormément, enfin, il interviewait des personnes qui venaient de publier un livre qui n'était pas forcément déjà très connu. Autant dans ses carnets, par exemple, quand il mentionne des auteurs, eh bien, il en revient à des classiques. Très fréquemment, il parle de Flaubert, il parle de Stendhal,
de Proust.
Et donc là, dans ces moments où il réfléchit sur la littérature de façon plus personnelle, C'est comme s'il opérait une sorte de retour aux sources pour lui. C'est-à-dire, peut-être que c'est abusif de dire ça, mais c'est ainsi que je le perçois, aux sources qui l'ont d'abord nourri avant qu'il n'entreprenne ce périple de lecture à travers la littérature contemporaine.
Mais Flaubert paraît presque être une lecture obsédante pour lui, puisqu'il a dit « j'ai presque relu Madame Bovary les yeux fermés ». Et en même temps, on sent bien dans tous ceux qu'il a interviewés, qu'il invitait les modernes. Est-ce qu'on voit dans ses archives la façon dont il préparait ses émissions? Tout ce qu'il y a en amont justement de ses émissions.
Il les préparait tout à fait sérieusement. D'abord par ses notes personnelles durant sa lecture des ouvrages.
Ses soulignages.
Ses soulignages. La documentation qu'il demandait à son équipe. Et puis la préparation aussi des questions qu'il allait être amené à poser ou qu'il pensait devoir poser.
Et est-ce qu'on peut voir s'il y a une grande différence entre les questions prévues et les questions effectivement posées, et quel est justement le volant d'improvisation qu'il y a entre la préparation et l'émission elle-même?
Ce serait tout à fait intéressant de faire ce travail. J'avoue que je n'ai absolument pas entrepris ce travail de comparer des éléments de questions auxquels il avait préalablement pensé et les questions réellement posées. Mais c'est un travail, de toute façon, sur les archives de Pierre Dumayet, il y a encore tout un travail à faire. C'est un fonds récemment arrivé, donc qui n'a pas encore été dépouillé en long, en large et en travers par les chercheurs. Et il y a effectivement là un travail à faire pour savoir comment il préparait exactement toutes les étapes et puis quelle était sa marge de variation au moment de l'interview.
Alors, bien entendu, c'était un journaliste, c'était un intervieweur, mais comme il a été célèbre assez vite, il a été ensuite interviewé souvent. Est-ce qu'il y a une différence de tonalité, à votre avis, vous qui avez revu justement ces archives, entre Pierre Dumayet, journaliste, et Pierre Dumayet, invité par un journaliste? Ou est-ce que là aussi, il y a une sorte de continuité, comme entre lire et écrire, ce que vous abordiez tout à l'heure, Laurence Lebras?
Je perçois une continuité. Là où il y a, alors, on ne peut pas dire rupture, parce que l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de son ouvrage, il y a une tonalité qui prête à sourire dans le sens d'un texte qui va parfois, qui aborde parfois les confins de l'absurde. Prête à sourire n'est pas la bonne expression, mais voilà, c'est un texte qui aborde les confins de l'absurde. Et ça, on ne retrouve pas du tout cette tonalité-là dans ses interviews.
Ah non.
Par contre, on la retrouve en permanence dans ses notes personnelles et notamment dans les carnets. Les carnets sont ponctués d'aphorismes, de sentences, de petits paragraphes, parfois désinvoltes, parfois avec cette tonalité, absurde, cocasse. On peut en citer un exemple. En 1982 ou 83, là, le carnet court sur les deux années, il écrit « L'homme ponctuel, par sa ponctualité, veut faire croire qu'il connaît l'heure de sa mort. Celui qui arrive toujours en retard veut faire croire qu'il l'a oublié. » Et ces phrases-là, on en trouve dans tous les carnets, et cet aspect de sa personnalité ne transparaît absolument pas dans les interviews.
Eh bien, merci infiniment à vous, Laurence Lebras, et à vous, Antoine Dumayet, d'être venu évoquer justement à la fois la mémoire et la personnalité de ce grand passeur intellectuel qu'était Pierre Dumayet, puisque ses archives viennent d'être données à la BNF. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de La Danse des mots, qui est une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Hamar.